À l'occasion du chapiteau du livre de Saint-Cyr-sur-Loire, Laurent a rencontré Jérémy Seban pour son premier roman intitulé « Après quoi on court » chez Ma Édition.
Jérémy Seban, bonjour.
Bonjour.
« Après quoi on court » est un premier roman sur la jeunesse du XXIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette ronde des sentiments ?
Oui, alors c'est l'histoire d'une fille qui aime un garçon, qui aime un garçon, qui aime une fille. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça. On les suit, en fait c'est très simple. On les suit pendant 10 ans, pendant toutes les années 2000, ce qui permet au lecteur de retrouver un peu sûrement des souvenirs, parce que je parle des petits et grands événements de cette période. Et puis voilà, c'est un livre sur qu'est-ce qu'a été cette jeunesse pendant les années 2000, comment on aime pendant cette période, comment on apprend aussi à grandir. Voilà, on les suit dans leur bonheur, dans leur malheur, dans leurs espoirs, puisque c'est un âge où on a plein d'espoirs.
Ce qui est original dans le roman, c'est que chaque chapitre est pris en charge par un personnage,
ouais.
Des personnages qui jouent parfois avec le lecteur, pour mieux en souligner les contradictions. Et ce choix des points de vue multiples, il s'est affirmé dès le départ de l'écriture ?
Ouais, j'aime beaucoup les romans dans lesquels on parle au lecteur. Et donc là, j'interpelle le lecteur du début à la fin. Je fais en sorte que le lecteur soit un peu le cinquième personnage de ce roman. Et donc j'avais envie qu'il puisse avoir une pluralité des points de vue, qui puisse se faire son opinion. Et donc, pour ça, je trouvais que c'était pas mal de donner la parole à mes quatre personnages au fur et à mesure, tour à tour.
D'autant plus que finalement, on se rend compte que dans tout ce jeu des sentiments, ce que perçoivent les uns n'est pas forcément ce que ressentent les autres.
Oui, c'est pour ça, je pense que c'est bien de donner la liberté au lecteur. Il peut se faire son opinion, il peut se dire « Ah bah, celle-là, je peux pas la supporter, celui-là, je l'aime beaucoup. » Je trouve que c'est assez ludique, finalement.
Vous avez développé une technique drôle et originale pour marquer ces 10 années que couvre l'histoire. On peut reconstituer la chronologie à travers une sorte de frise où se mêlent des événements historiques importants. Et aussi les vainqueurs de la Star Academy. Du coup, je me demandais en quoi cette démarche-là a pu servir vos intentions d'auteur.
Moi, ce dont j'avais envie, c'était de parler un peu de mon époque, c'est-à-dire que c'est pas un roman qui parle spécifiquement des événements des années 2000. On est surtout centré sur le carré amoureux, l'histoire d'amour, l'histoire d'engagement, l'histoire de réflexion de mes personnages. Mais je trouvais ça assez original, finalement, de les mêler à des événements réels. Et c'est vrai que quand on a 15 ans, comme mes personnages, on a des références musicales parfois un peu douteuses. Et donc, ils regardent la Star Academy, ils regardent le Love Story, ils grandissent au fur et à mesure de la télé-réalité. Et c'est vrai que les années 2000, c'était des choses extrêmement brutales. Voilà, le 11 septembre, la guerre en Irak, Le Pen au second tour. Mais aussi, voilà, des choses légères, la télé-réalité, puis leurs goûts musicaux, et voilà.
Et alors justement, ce mélange contrasté des références, c'est pas aussi une façon de souligner la complexité de l'adolescence, qui est quand même partagée entre un égocentrisme exacerbé qui les caractérise, et la nécessité de grandir dans un monde qui les dépasse un peu?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une génération qui est un peu marquée par la fin des idéologies, c'est-à-dire que dans les années 80 ou même avant les années 60, les jeunes avaient envie de descendre dans la rue, avoir des combats, etc., qui étaient importants pour eux. Et là, c'est vrai que les années 2000, c'est une décennie plutôt curieusement pacifique, où on descend dans la rue plus pour la technoparade que pour réaffirmer des droits. Et donc la jeunesse dont je parle, en effet, elle est assez centrée sur ses sentiments, sur leurs amours, sur leurs petits caprices. Et voilà, et puis la forme dans laquelle parlent mes personnages, c'est-à-dire en effet les personnages qui parlent les uns après les autres, bah ça les pousse à dire je, et donc on est évidemment dans un égocentrisme total, puisqu'ils parlent que d'eux, ils pensent qu'à eux.
Ce qui est flagrant, ce sont aussi, au cours de ces 10 années, le fait qu'on assiste à, quelque part, à l'entrée dans le monde de chacun, et chacun à son niveau, l'engagement, le refus de grandir, la difficulté de suivre un modèle. Et vous, quel regard vous portez sur cette génération-là des années 2000?
C'est une génération où tout est compliqué, c'est-à-dire que avoir un emploi, avoir un logement, avoir son indépendance, c'est souvent le parcours du combattant aujourd'hui pour cette jeunesse, ce qui était plus facile probablement pour nos aînés. Et donc c'est vrai que aux côtés de leurs petits déboires sentimentaux, j'avais aussi envie de montrer que être jeune dans les années 2000, c'est aussi souvent avoir beaucoup de combats pour son indépendance.
Pour le coup, les personnages, ils sont tous à un moment agaçants, autant ouais. qu'attachants, pour le lecteur aussi. Et à chaque fois, on est quand même surpris par cette lucidité qui les amène finalement à anticiper cet agacement et à le dire au lecteur.
Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que souvent quand on est adolescent, on est un peu en boucle quand on aime quelqu'un, et donc mes personnages se demandent est-ce que c'est mieux de l'appeler à 21h23 ou 21h42, voilà, sont assez obsessionnels, et donc par définition, ils sont dans des obsessions. Mon personnage principal, qui s'appelle Aaron, est complètement très masochiste, mais surtout obsessionnel vis-à-vis de ceux qu'il aime, et donc je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à rendre mes personnages tour à tour agaçant, attachant, pour que finalement mon lecteur soit un petit peu perdu, que au départ il ait des convictions, qu'il ait des certitudes, et puis au fur et à mesure qu'il se dise que, bah, comme dans la vie, les gens sont ni blancs ni noirs, il y a aussi beaucoup de nuances.
Et il y a malgré tout dans le livre une forme d'intertextualité de référence, notamment cinématographique, parce que les personnages vont beaucoup au cinéma. Les œuvres citées sont pas non plus anodines. Et tout ça, c'est très palpable dans le roman, qui, par bien des points, quand même, ressemble déjà à un scénario. Et le fait que les références soient également presque exclusivement générationnelles, est-ce que c'est un choix, pour le coup, délibéré?
Oui, puisque c'est vrai que mes personnages vont souvent au cinéma, alors pas toujours pour regarder ce qu'il y a sur l'écran, parfois pour s'embrasser, pour se parler, etc. Mais oui, moi j'adore le cinéma, je suis nourri de ça, et donc j'avais envie aussi de parler de ces références-là. Et puis, bah, de fait, ils vont voir des films, donc ils vont voir les films de leur époque, donc c'est pour ça que je les cite comme ça. Mais en effet, moi j'ai voulu construire mon roman aussi comme quelque chose d'extrêmement visuel, et donc voilà, la porte est toute tracée pour une adaptation, mais ça, on en reparlera.
Alors, du coup, je vais citer Punky Brewster, la Starac, Michael Jackson, Christophe Honoré avec les chansons d'amour. Donc on sent qu'il y a quand même une volonté d'affirmer une culture pop et populaire dans la construction même des personnages et dans leur parcours initiatique. Étrangement, tout ça sans jamais aucun cynisme de votre part. Pour le coup, si on est à la fois amusé et dérouté au début, une fois qu'on ferme le roman, on a ce sentiment que finalement tout ça participe au sujet, et du coup ça paraît presque quand même de votre part comme un pari un peu gonflé, que de décider de ne pas feindre la réflexion par des citations littéraires qui pourraient être plus glorieuse. Vous vous l'êtes posé cette question-là en l'écrivant ?
Non, pas du tout. Moi, j'avais envie d'écrire un roman tendre, humain, et donc moi, j'assume complètement, comme mes personnages qui, à 15 ans, écoutent Patrick Bruel et la Star Academy. Moi aussi, j'ai écouté des bêtises, ou j'ai écouté Jennifer quand j'avais 17 ans, avant d'aller voir les films de Christophe Honoré. Je pense que ça participe de la construction de quelqu'un, et donc je trouvais que voilà, j'ai voulu faire un roman qui ressemble à la vie, et donc dans la vie, on a des goûts successifs, et voilà, ça se passe comme ça. Mais ce qui est intéressant à l'âge de mes personnages, c'est que ils ont 16 ans, 17 ans au début, et donc ils font l'apprentissage de la philosophie, de l'apprentissage des grands textes littéraires, et donc il y a en effet quelque chose d'un peu schizo, parce que voilà, il y a une page où je cite Alfred de Musset et les grands philosophes, et une autre page où il parle, qui pleure en regardant la finale de la Star Academy, et donc voilà, c'est une période un petit peu comme ça, dans lequel quand on est jeune, on a différentes influences, et voilà.
Chez eux, pas ou pas encore cette idée que s'affirmer passe forcément uniquement par une forme d'érudition un peu parfois trafiquée.
Oui, bien sûr, mais c'est un roman finalement qui parle essentiellement d'amour, et donc ils trouvent leur référence aussi dans des textes qui leur inspirent ce qu'ils vivent au quotidien. Alors parfois c'est des textes de chanteurs des années 2000, et puis parfois c'est des textes d'Oscar Wilde ou de Mauriac ou de Sartre, voilà.
Et alors du coup pour terminer, Jérémy Seban, est-ce que vous avez la réponse après quoi on court?
Non, j'ai pas la réponse, mais j'espère que vos lecteurs vont la trouver en lisant mon roman.
Eh bien, on espère aussi. Merci beaucoup, Jérémy Seban, et puis longue vie à ce premier roman.